Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous.
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là. T'sais.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Cinérama estivale. Donc, à peu près sans actualité, si ce n'est quand même le dernier film de Pierre Salvadori, La Petite Bande, parce que c'est un réalisateur qu'on aime bien. Manu, tu vas poursuivre ta série sur les compositeurs italiens.
Oui, avec aujourd'hui donc un film américain réalisé par Paul Schrader, Cat People, La Féline en français, et la musique est donc de Giorgio Moroder.
Comme pour chaque émission de cet été, nous allons ressortir un blind test. Là, eh bien, ce sera un blind test autour de la filmographie de Pierre Salvadori. Évidemment, c'était plus simple de faire comme ça. Mais on commence cette émission avec le jeu, celui des répliques. On vous passe des répliques et il faut deviner le titre.
Et maintenant ? Quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oh, ça va ?
Première réplique.
Ça veut dire, par exemple, que les Noirs sud-africains finiront certainement un jour par gagner. Alors que les Noirs nord-américains n'arriveront probablement jamais à s'en sortir. Ça veut dire aussi que l'histoire n'est pas une science morale. Le bon droit, la compassion, la justice sont des notions étrangères à l'histoire.
Alors, trois fois le nombre, alors effectivement, c'est un film québécois, ça c'est le bon indice.
Voilà, c'est un bon indice, avec déclin de l'Empire américain.
Oui.
Il n'y en a pas, je ne connais pas, 3000.
De Denis Arcand, et là on entend l'acteur Jimmy Girard qui est prof d'histoire, et je vous passe la suite quand même.
Ça veut dire par exemple que les Noirs sud-africains finiront certainement un jour par gagner. Alors que les Noirs nord-américains n'arriveront probablement jamais à s'en sortir. Ça veut dire aussi que l'histoire n'est pas une science morale. Le bon droit, la compassion, la justice sont des notions étrangères à l'histoire.
Voilà, donc la séquence était un peu plus longue. On continue le jeu des répliques avec cette deuxième réplique.
Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais.
Eh ben tire-toi alors.
Donc, c'était facile.
C'était hein. La chèvre, là.
Avec Pierre Richard dans ce film de Francis Weber de 1981. Troisième réplique.
Votre chienne, elle vous aime. Les chiens, eux, ils n'ont pas le choix, il leur faut aimer leur maître. Et comme vraisemblablement vous menez une vie d'abruti, elle en souffre. C'est une femelle comme vous. Et comme elle n'a pas le mâle, le défilé de vos playboys, ça l'irrite. D'où névrose, urticaire et mycose.
Pic moral à cette époque d'un film de 1965.
Un film français.
Avec Jean Gabin, oui, quand même. Là,
Gabin.
C'est un vieux vétérinaire. Ouais, il faut revoir tous les films de Gabin dans sa tête. Hein. C'est pas évident, je comprends.
65, c'est un
film de Denis de la
Patellière.
Ouais. Oui.
Mais je...
Bah, c'est le tonnerre de Dieu. Voilà.
J'aurais pas trouvé.
Oui, bon. Allez, encore une réplique.
La couche-culotte, c'est l'enfant. Ça reste le but fondamental des êtres, se reproduire, comme n'importe quelle bactérie.
Ah, on entend la voix de Fabrice Luchini, quand même, oui. Il parle de la reproduction. Voilà, donc là, il joue un prof d'art plastique.
Ah oui, c'est prof de Patrick Schulman.
Oui, sorti en 1985.
Ouais.
Oui. Allez, dernière réplique.
Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Bah, c'est Chuck Norris.
Oui.
Et ce serait... alors là, je ne sais plus trop. Alors, c'est pas Invasion USA, donc c'est... Ou alors, c'est Portée disparue.
Oui,
voilà.
Le 3, sorti en 1988. Voilà, ainsi s'achève ce petit jeu des répliques. C'est pour se mettre en jambe avant le blind test qui arrive tout à l'heure. Et puis, en fin d'émission, le quiz. Un groupe d'enfants veut faire sauter une usine qui pollue leur rivière depuis des années. C'est La Petite Bande de Pierre Salvadori.
La Petite Bande.
Ouais. Plus que d'être grand ou fort, plus que d'avoir des super pouvoirs, moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est faire partie d'une bande.
Le rêve d'aimer, c'est de faire partie d'une bande. Mais Aimé a 12 ans, des cheveux frisés, et au collège, on lui vole son goûter, on lui met la tête dans la purée, et personne ne veut jouer avec lui. Aimé rêve d'intégrer la bande que forment Kat, Fouad, Antoine et Samy, quatre ados du même collège. Kat et Fouad ont un secret, fervent et précoce défenseur de l'écologie. Ils veulent faire sauter tout bonnement l'usine Chambon, une usine qui déverse des produits toxiques dans la rivière voisine depuis des années. Ils vont réussir à embarquer dans leurs folles aventures Samy, secrètement amoureux de Kat, et Antoine, mais les terroristes en herbe se retrouvent confrontés à de nombreux problèmes qui paralysent leurs actions. En étant, par exemple, quatre, ils ne peuvent pas voter. Ils décident donc d'intégrer Aimé à leur bande. Aimé est aux anges, il a enfin des amis et ils ont un but. Mais naturellement, rien ne va se passer comme c'était prévu.
Samy et moi, on va foutre le feu à l'usine Chambon. Il faut quelqu'un qui n'ait pas de copain du tout.
Que personne n'aime.
Super bizarre que vous me preniez dans votre bande comme ça d'un coup. Merde, ils vont me tuer. Au secours.
Mais qu'est-ce que vous me voulez en fait?
L'écologie, t'en penses quoi?
Hein? La pollution, la rivière, les poissons, tout ça. Tu les aimes?
Si j'aime les poissons?
Ouais, les truites.
Et voilà. C'est comme ça que je suis entrée dans la bande.
La petite bande, c'est une fable écolo impertinente et assez amorale. Et c'est surtout le 10e film réalisé par Pierre Salvadori qui est le meilleur représentant de la comédie d'auteur à la française. Alors j'aimerais dire que ce film est totalement réjouissant, hein, mais le mot est trop faible. Non, il faut plutôt dire qu'il est galvanisant. C'est un film qui vous met dans un état d'émerveillement paisible, qui jouit d'une mise en scène impeccable et d'une écriture excellente. On aurait pu redouter un problème de direction d'acteur, comme cela arrive fréquemment, hein, sur les films avec une distribution assez jeune. Mais les cinq protagonistes sont campés par de jeunes comédiens impeccables, les adultes étant toujours d'ailleurs relégués au second plan dans l'intrigue. Il est question assez subtilement de l'impact du comportement des parents sur les enfants, de situations familiales complexes ou toxiques, parents violents, absents ou victimes. Mais le film reste centré toujours sur cette petite bande qu'on a d'ailleurs pas très envie de quitter. Si le film se déroule en Corse, d'où est originaire Salvadori, les lieux qui sont filmés demeureront toujours sans nom, la Corse étant ainsi filmée comme le terrain de jeu de ces adolescents, une sorte d'Éden. Seul bémol dans l'écriture extrêmement qualitative de ce film, hein, on retrouve eh bien, ce que l'on appelle communément le syndrome de la Schtroumpfette. Le syndrome de la Schtroumpfette, c'est le fait d'avoir un groupe de garçons dans une œuvre de fiction avec une seule fille qui est là pour représenter un intérêt amoureux. Comme l'explique la critique Catapolite, cette surreprésentation des protagonistes masculins tend à induire que les garçons sont la norme et les filles la variation, que les garçons sont centraux quand les filles sont à la périphérie, que les garçons sont des individus alors que les filles sont des stéréotypes. Les garçons définissent le groupe, son histoire et ses valeurs, et les filles existent seulement dans leur relation aux garçons. C'est la seule faiblesse du scénario de La Petite Bande. Le personnage de Kat, le personnage au féminin, sera en effet celui qui est le moins travaillé malheureusement. On ne le verra jamais exister en dehors de cette bande de garçons, jamais avoir d'interaction avec d'autres personnages, contrairement donc au personnage masculin. La Petite Bande demeure sans doute néanmoins l'une des meilleures comédies, sinon la meilleure que vous verrez cet été. C'est un film dont se délecteront autant les enfants que les adultes.
Wow! Une bande qui allait faire un truc de dingue.
Faut le relâcher, faut arrêter tout ça. On peut pas le garder.
Et les brebis? Les brebis, tu les aimes les brebis?
Les brebis.
Tu battrais pour une brebis?
Ouais, une chèvre même.
Il faut revoir toute la filmographie de Pierre Salvadori. Alors oui, Salvadori n'est pas exactement un cinéaste inconnu. Il a reçu le prix SACD pour En Liberté à la quinzaine. Hors de prix, il a fait plus de 2 millions d'entrées. Et dans la course, son avant-dernier film pouvait se targuer d'avoir à son casting Catherine Deneuve tout de même. Mais ses comédies restent un petit peu sous-estimées parce que ce sont des comédies justement. Et surtout parce que le public a du mal à cerner le style Salvadori qui est pourtant l'un de nos meilleurs auteurs actuels. Là où des Philippe Lachaud met quelques mois à écrire, le réalisateur qui se réclame de Lubitsch et plus généralement de la comédie américaine des années 50-60, met lui 5 ans en moyenne à écrire un long métrage. Et cela se sent. Le but de tout film, dit-il, c'est de faire connaissance avec des personnages, découvrir leur mystère, découvrir leur motivation. Et c'est sans doute en remettant ainsi l'humain au cœur de ses comédies qu'il parvient à créer ce style poétique et loufoque qui lui est propre pour donner chair à ses personnages. Il ose également choisir des comédiens souvent atypiques et toujours un peu mélancoliques. Il a misé sur Adèle Haenel pour En Liberté. Il a donné ses plus beaux rôles à Guillaume Depardieu avec Les Apprentis, Cible émouvante ou encore Comme elle respire. Il a été l'un des premiers, enfin, à percevoir le potentiel d'émotion de José Garcia qu'il a dirigé dans Après vous. Sans compter également qu'il a écrit les meilleurs rôles de comédie qu'Audrey Tautou ait pu jouer après Amélie Poulain, à savoir Hors de prix ou encore De vrais mensonges, et qu'il a révélé le meilleur de Damien Bonnard avec En liberté. Pierre Salvadori, c'est toujours de la comédie avec un supplément d'âme. Il faut voir ou revoir tout Salvadori.
La petite bande est en salle depuis le 20 juillet. Ça nous donne eh bien, l'occasion de ressortir un blind test qu'on avait fait à l'occasion de la sortie de En Liberté, sa précédente comédie qui, moi, m'avait beaucoup marqué. Un film que j'apprécie beaucoup et que je revois avec toujours autant de plaisir. Donc, eh bien, vous allez pouvoir jouer donc, avec la filmographie de Pierre Salvadori.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
On joue très vite à un blind test. 5 extraits de sa filmographie à reconnaître. Premier extrait.
Je vais me coucher.
Non ? Eh, hey, oh. Je te rappelle qu'on est censé partager le fric. Eh, hey, oh ! Je te rappelle que ça fait 3 fois que je paye le téléphone et l'électricité.
C'est moi qui ramène la bouffe.
Ah oui, tout ce que tu ramènes, tu le piques.
Et alors ?
Et alors ? Eh ben, on bouffe que ce qui rentre dans tes poches. Hein ? Du gruyère, des steaks surgelés, des sardines en boîte, du poisson pané. On bouffe que des trucs carrés. Dis donc, je te parle de vraie nourriture, moi. Tu comprends ? Une laitue, par exemple. Pique une laitue la prochaine fois ! T'as compris ?
Ah oui, quand on engage François Cluzet, il vaut mieux lui faire parler fort la colère. Donc François Cluzet, Guillaume Depardieu, le duo des apprentis, Marine, en 1995. Deuxième extrait.
Vous pouvez pas partir comme ça sans rien dire ?
Bah si, bien sûr que si, la preuve.
Ah, Jacques, qu'est-ce que j'ai fait ?
Mais rien, c'est pas forcément lié à vous. Qu'est-ce que vous pouvez être vaniteux ?
Hein ?
Présomptueux, tiens, c'est incroyable.
Quoi ? Jeanne ! Jeanne ! Vous m'avez dit des choses cette nuit.
Qu'est-ce que je vous ai dit ?
Que quand vous étiez à côté de moi, vous vous sentiez bien, calme.
Et je m'en souviens plus.
Que dans mes bras, vous aviez la sensation d'être sous un arbre immense et que rien ne pourrait vous arriver ?
Il manquait vraiment de pudeur.
Quoi ? Mais c'est vous qui l'avez dit !
Mais c'est pas une raison pour le répéter, j'étais bourrée, c'était de la nuit. Ce matin, il a l'air malin, l'arbre immense avec son bouquet de fleurs et sa baguette. C'était rien, tout ça, c'était de l'ivresse.
Jeanne, comment ça, c'est rien ? Vous n'avez pas le droit de dire ça. Je crois qu'avec moi, c'était différent.
Mais chaque homme croit qu'avec lui, c'est différent. D'ailleurs, ça l'est, forcément.
Marie Trintignant, qui n'arrive jamais à rester sincère plus de 2 minutes, c'est Comme elle respire. Avec le duo, cette fois-ci, Guillaume Depardieu toujours, mais Marie Trintignant.
Le chêne. Mais pourquoi vous avez coupé le chêne ?
Mais pour récupérer un peu de soleil.
Mais il était magnifique, c'était un arbre 3 fois centenaire.
Mathilde, faut pas qu'on tarde parce que...
Mais enfin, c'est ridicule. On coupe pas un chêne. On l'éclaircit.
Je suis désolée.
Oh.
Qu'est-ce qu'il y a, madame ?
Bah, ils ont coupé le vieux chêne.
Mais qui ?
Tes parents.
Madame.
Mais maman, pourquoi vous avez coupé l'arbre ?
Mathilde, on va peut-être y aller parce qu'il y a un RER à 27. C'est bon. Oh hein.
Mais il est où ? Il était là. Qu'est-ce que vous avez fait de l'atelier de mon père ?
Il est où, le...
Écoutez, madame, hein, je dois partir.
Mais vous l'avez détruit ? C'était tellement beau, il avait fait une verrière avec son frère, c'était magnifique.
Mais il était complètement délabré et on avait besoin d'une chambre.
Non, mais c'est dingue. Mais regardez, Antoine, pour faire ce truc suédois en plus.
Pourquoi elle crie, la dame ?
La dame, elle crie parce que tes parents, ils ont cassé ma maison.
Alors cette fois-ci, ça a été trouvé, Marine, enfin.
Oui, bah, je pense que c'est dans la cour. Oui. Je ne l'ai pas vu, mais bon, j'imagine, vu que c'est la voix de Catherine Deneuve.
Tout à fait. Là, le duo est formé avec Gustave Kerven et il y a déjà Pio Marmaille dans ce film qui est un voleur compulsif de vélo. Quatrième extrait.
Tu trouves que j'ai du charme ? C'est ce qu'on dit à quelqu'un quand on le trouve pas beau, ça.
Mais le charme, c'est mieux que la beauté. On peut résister à la beauté, mais pas au charme. Mais montre-moi comment tu fais pour être... pour séduire.
Comment je fais ?
Bah, t'as bien un truc que t'as mis au point devant ta glace quand t'avais 15 ans.
Non, j'ai pas. Non.
Bah, invente. Vas-y, séduis-moi.
Non, j'ai...
Allez, fais-moi le regard qui tue.
Mais non, c'est pas comme ça.
Allez ! Mais allez, vas-y.
Bah ça y est, j'avais commencé, là.
Pardon.
Alors, c'est encore un duo, c'est celui de...
Gad Elmaleh et Audrey Tautou, c'est Hors de prix.
Oui, film de 2006, le gros succès de Salvadori. Dernier extrait, et tout en longueur.
Donc, vous parlez couramment le coréen ?
Oui.
Et le japonais ?
Oui.
Donc tout à l'heure, dans le salon, vous gueuliez en coréen ou en japonais ?
En chinois.
Et pourquoi vous l'avez pas mis, ça, dans votre CV ? Responsable du... Comment vous dites ?
Pôle traduction, secteur asiatique.
Voilà. Pourquoi ?
Parce que je pensais que c'était pas tellement utile pour ce que vous cherchiez.
Et combien de personnes travaillaient sous votre responsabilité à l'UNESCO ?
L'UNESCO ?
Ben, l'UNESCO, oui. C'est ce que j'ai dit. Combien ?
31.
Et vous avez fait beaucoup d'études pour en arriver là ?
Oui.
Et pourquoi vous faites des travaux ici alors que vous pourriez être là-bas à traduire des trucs importants ?
Je me suis fait renvoyer.
Pourquoi ? Si c'était pas indiscret ?
J'ai fait une dépression. Une nuit, en plein milieu d'une négociation entre Italiens et Chinois, j'ai frappé l'ambassadeur italien et je me suis effondré en larmes.
Vous parlez italien aussi ?
Encore un duo, c'est...
Samy Boisgila et Audrey Tautou, c'est de vrais mensonges.
Et oui, film de 2010. Et ainsi s'achève eh bien, ce blind test spécial Pierre Salvadori.
J'ai brillamment gagné.
This is Cinerama.
Ce blind test vous était reproposé dans le cadre de ces émissions estivales. Il concernait donc Pierre Salvadori à l'occasion de la sortie de son film La Petite Bande. Manu, tu poursuis ta série sur les compositeurs italiens, mais tu vas nous parler d'un film américain, cette fois-ci, le film de Paul Schrader, La Féline.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Alors aujourd'hui, hein, je prends donc des chemins un peu détournés hein, et pour évoquer un compositeur italien par le biais cette fois donc, du cinéma américain et pas n'importe quel auteur de BO puisqu'il s'agit de Giorgio Moroder qui est d'ailleurs l'inventeur... Je dis bien, je mets des guillemets parce que c'est rare d'être inventeur d'un genre de musique, mais du disco. En tout cas, il est considéré comme tel. Essentiellement connu pour sa collaboration fructueuse pour une dizaine d'albums avec Donna Summer, et puis aussi Blondie, hein, pour le morceau notamment Call Me. C'est lui qui était compositeur derrière, qui était le thème central d'American Gigolo de Paul Schrader. Alors ça tombe bien, bah, car je vais donc évoquer un autre film de Paul Schrader, hein, sans doute son chef-d'œuvre incompris à l'époque, La Féline, officiellement donc le remake classique du film de Jacques Tourneur, réalisé donc en 1942. Le film de Tourneur, hein, le Schrader, il est donc de 82, 40 ans plus tard. Alors là, il s'agit plutôt d'une variation, voire d'une réinterprétation d'un thème assez classique du fantastique, là où l'auteur de La Griffe du passé hein, s'évertue à créer une atmosphère trouble entièrement dédié à la suggestion, Paul Schrader, au contraire, bah, fuit la litote. Il explicite ouvertement tout ce qui était de l'ordre de l'interprétation. Il est dans la monstration permanente, mais reprend littéralement le fil conducteur du récit original. Hein, donc, Irena hein, retrouve son frère Paul à la Nouvelle-Orléans. Dans les jours qui suivent, une mystérieuse panthère tue une prostituée. L'animal se révèle avoir d'étranges liens avec Paul et Irena. Faut pas en dire plus parce qu'il y a quand même des petites surprises. La Féline, version 82, est un fascinant condensé de toutes les obsessions du réalisateur d'hardcore, hein, une immersion quasi pulsionnelle dans la psyché d'une jeune femme vierge attirée par la sexualité. Mais en bon puritain torturé, hein, cette sexualité, sans être envisagée comme un péché, est liée à la perte de l'innocence et à la mort. Ce conte initiatique, violent et érotique, est magnifié bah, alors, par une mise en scène éclatante, davantage que clinquante, qui symbolise à elle seule les années 80, un peu à la manière des prédateurs de Tony Scott. Le style publicitaire du film ne nuit jamais au récit. Au contraire, hein, il crée une sorte d'envoûtement permanent. Il érotise le corps parfait de Nastassja Kinski. Les amples mouvements de caméra, hein, les filtres d'une photo ultra léchée, la sophistication des cadrages portent généreusement un scénario complexe brassant les thèmes fétiches du cinéaste. L'inceste, le péché, le refoulement, Eros et Thanatos. Mais loin de laisser poseur, La Féline est contaminée par sa propre trivialité. Le discours moraliste de Schrader est parasité par une forme généreuse, ne lésinant pas sur les effets sanglants et la nudité complaisamment exposée par son actrice principale. Un grand poème schizophrène, alors de la part d'un auteur passionné, alors ça c'est un grand paradoxe, hein, par Robert Bresson, à qui il a par ailleurs consacré un ouvrage entier. Apparemment le meilleur qui était écrit sur le réalisateur français. Un paradoxe étonnant d'ailleurs quand on voit la beauté quasi tape à l'œil de Cat People qui se regarde les grands yeux ouverts mais s'écoute aussi. La musique hein, en grande partie électronique hein, scandée par une rythmique héritée du disco mais un disco au ralenti participe à l'envoûtement du film qui par moments a des allures de clip hypnotique. Et puis bien sûr il y a ce morceau génial dont vous allez immédiatement reconnaître l'interprète.
It's been so long. Feel my blood enraged. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long, and I've been putting out fire with gasoline. Heart that can never mend, these tears can never dry. A judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. We'll be right back.
est donc reconnu, c'est David Bowie.
Oui, d'ailleurs, ceux qui ne l'auraient pas reconnu mériteraient d'être punis. Le film s'ouvre par ce morceau, le bien nommé Cat People, qui fut aussi repris en son temps par Tarantino dans Inglourious Bastard. Et là, je ne fais vraiment pas exprès. À chaque fois que je choisis un morceau, je me dis « Ah, tiens, Tarantino l'a repris oui. ». C'est un peu le hasard. Hein. Alors, ce morceau illustre une magnifique séquence primitive, à la fois charnelle et effrayante, montrant des félins rugissant dans un décor irréel. Giorgio Moroder va connaître aussi le succès alors en composant plusieurs autres musiques de films, dont certainement sa plus connue, c'est Midnight Express, mais aussi Scarface de Brian De Palma ou encore Electric Dreams pour ses trois films, je dirais, les plus connus. Par ailleurs, âgé de 82 ans, il est toujours vivant, toujours en activité. Je crois qu'il se produit encore sur scène de temps en temps. Par contre, il n'a pas enregistré un disque depuis quelques temps.
Merci beaucoup encore pour cette série que tu vas poursuivre la semaine prochaine avec
Cannibal Holocaust la oui. semaine prochaine pour une musique qui est étonnante, totalement en contraste avec le film.
On termine cette émission avec le quiz autour de l'histoire du cinéma. Donc ce sont des questions, il faut se creuser un peu la tête.
This is Cinerama.
Et ça c'est clair.
Après avoir vu les débuts du cinéma avec Griffith, Murnau, passons maintenant au mouvement d'avant-garde dans cette émission, soit des films avant les années 1930. Eisenstein parle du cinéma d'un pays qui possède une multitude infinie de caractéristiques dans sa culture, mais éparpillé partout à la seule exception du cinéma. Alors de quel pays s'agit-il ? Est-ce qu'il parlait de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Italie ou du Japon ? Alors soit c'est l'Allemagne, soit c'est l'Italie, soit c'est les États-Unis, soit c'est le Japon.
Allemagne.
Eh bien non, c'est le Japon. Après 6 jours de projection au studio 28 à Paris, l'âge d'or de Louise Buñuel est interdit par le préfet Jean Chiappe, célèbre aussi par les ennuis qu'il chercha à Eisenstein lors de son passage à Paris. Et donc le 11 décembre 1930, la copie de projection est saisie. En quelle année les projections publiques de ce film de Louise Buñuel furent-elles de nouveau autorisées ? Est-ce que c'est 1945, après la guerre ? 1968 ? Tiens, on se dit... Allez, on va le sortir pendant la contestation. 1972, 1995 ou 1980 ? Ah, j'avais oublié 1980.
J'aurais dit 45.
Eh bien, non.
Non ?
C'est 1981.
C'est vrai ?
Oui. Eh oui.
Il n'a jamais été diffusé avant ?
Non, il a été projeté, mais soit en projection privée, soit peut-être à l'occasion de festivals, c'est-à-dire qu'après, il n'avait sûrement pas le visa d'exploitation.
Oui,
en tout
oui
cas,
c'est voilà. plus lié à ouais. ça qu'une interdiction.
Ah bah oui.
Hein.
Oui, mais quand même. C'est...
Ah oui, non, c'est énorme.
Ça veut dire qu'il ne pouvait pas distribuer en salle. Dans son film Le Cuirassé Potemkin, Eisenstein encore a recours à un procédé révolutionnaire, un déplacement oblique de l'axe de la caméra vis-à-vis de ce qu'est le film. Comment s'appelle ce procédé ?
Travelling.
Eh oui, c'est le travelling. Ainsi s'achève ce quiz consacré à l'histoire du cinéma. La semaine prochaine, eh bien, on avancera dans cette histoire du cinéma, on dépassera les années 30.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine, Manu, avec la suite de ta série.
Oui, un grand classique, Cannibal Holocaust.
Et puis nous parlerons de La Sirène du Mississippi, puisque le film de François Truffaut ressort sur les écrans. À la semaine prochaine.